nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Focus dans cette émission reçoit plusieurs invités de renom pour présenter un colloque qui se déroule sur trois dates et dont la première est fixée la matinée du 7 juin 2010 à l'Institut de France. Colloque intitulé « Un regard sur l'homme contemporain à travers la science, la morale et la politique ». Au cours de trois dates, de nombreux conférenciers, qu'ils soient médecins, philosophes ou juristes, vont apporter leur pierre à l'édifice pour comprendre les mécanismes qui animent l'homme ou de manière plus large, les structures humaines. Les mécanismes internes avec la médecine, les mécanismes externes avec la politique. Comment améliorer une société où croît la perte de lien social, le manque de confiance et le malaise sur le plan politique, économique et social? C'est une des questions posées au cours de ce fameux colloque organisé par Bérénice Tournafon et sous la direction scientifique d'Edgardo Carosella, de François Gros et de François Théré de l'Institut de France. Merci à tous les quatre d'être venus au studio de Canal Académie. Bérénice Tournafon, pourquoi avoir décidé de monter ce colloque ?
Eh bien, on a décidé d'organiser ce colloque parce que des découvertes scientifiques extraordinaires nous apportent des éléments de réponse sur l'être humain, sur sa complexité, son individualité, son sens du collectif. Et l'objectif était justement de montrer comment, à partir de ces dernières découvertes scientifiques, l'on arrivait à mieux comprendre l'homme contemporain. Alors évidemment, c'est une vieille question, mais les moyens modernes de recherche, notamment l'imagerie cérébrale en neurosciences, entre autres, permettent d'avoir des informations nouvelles qui, d'ailleurs, parfois confirment des intuitions traditionnelles que l'on avait sur l'homme.
Alors, je le rappelle, ce colloque est organisé en trois parties. La première a lieu le 7 juin de 9h à 13h à la matinée, le 7 juin à l'Institut de France, et s'intitule plus particulièrement « Un regard sur l'homme contemporain à travers la science ». Vous allez pouvoir nous en donner quelques éléments dans quelques instants. Et puis, il y a les deux autres parties qui, elles, auront lieu à l'automne 2010 et qui portent sur la morale et sur la politique. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments pour qu'on puisse mieux saisir l'enjeu des connaissances actuelles sur l'homme et sur la compréhension de l'homme?
La première partie, en fait, concernera essentiellement l'apport fondamental des sciences à la compréhension du comportement humain. Ça permettra de donner une vue d'ensemble transversale des connaissances scientifiques à travers notamment la génétique, l'immunologie, la neuroscience, et en quoi elle révèle certains liens entre la science, la morale et la politique.
Ça, c'est pour la première partie.
La deuxième partie concernera donc plus spécifiquement un regard sur l'homme contemporain à travers la morale. Alors la morale, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui donnent la notion du bien et du mal, c'est soit un sentiment individuel, quelque chose de subjectif, ce que l'on peut appeler familièrement la conscience du bien, soit un ensemble de valeurs diffuses qui sont défendues par la société et ses institutions. Donc on voit le lien étroit entre la morale et l'esprit, l'état d'esprit, et notamment l'influence de la spiritualité, de l'éthique, et aussi de l'empathie, de l'altruisme, de la charité sur l'épanouissement et le bien-être des individus, tant sur le plan individuel que social. Donc ça, ce sera la deuxième partie.
Et puis la partie qui porte sur la politique.
Tout à fait, la troisième partie sur la politique. La politique ne peut pas être confondue avec la science et la morale, mais la science et la morale jouent un rôle extrêmement important dans la façon dont on mène la politique. Ce sera essentiellement de ces liens entre ces différents domaines dont on parlera, de l'incidence de la science et de la morale sur la politique, et réciproquement, sachant que la politique est évidemment à la source du pouvoir et par conséquent du système de droit. Or, le droit, c'est-à-dire les lois aussi, hein, qui résultent de la volonté politique, régissent les relations sociales et incitent à des comportements qui seront plus responsables en faveur, par exemple, de la défense de l'environnement, du respect d'autrui. C'est également de tout ça dont nous parlerons à l'occasion de cette troisième partie.
Alors abordons ce colloque un peu plus en détail. Venons-en à la première thématique, l'apport fondamental des sciences dans la compréhension du comportement humain. François Gros, je m'adresse à vous. En quoi, aujourd'hui, la génétique apporte des éléments de compréhension sur le comportement humain ?
Vous posez là la question la plus difficile du monde, oui. Ce que l'on peut dire, c'est que d'abord, il n'y a pas de gêne de l'intelligence, il n'y a pas de gêne de la sociabilité. Les relations sont complexes. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que grâce aux connaissances que nous procurent les avancées dans le domaine de la génomique en particulier, qui a donné un éclairage tout à fait nouveau sur l'existence des gènes de l'homme, plus spécialement, d'abord, c'est que les gènes interviennent au moment du développement du cerveau. Donc il y a des gènes de développement dont la fonction, l'intégration est de mieux en mieux connue. On a commencé d'ailleurs les études au niveau de la mouche du vinaigre, puis de la souris et finalement de l'homme. Donc ces gènes interviennent dans le développement de tel ou tel territoire du cerveau. Autre chose, on a évidemment une certaine approche à la question que vous posez en étudiant ce qu'on appelle les maladies neurologiques, qu'on appelait autrefois les maladies mentales. Et là, on commence à avoir évidemment un certain nombre d'éclairages sur certaines des causalités génétiques de maladies neurodégénératives, enfin telles que, en particulier, Parkinson, bien sûr, Alzheimer, à un moindre degré, mais tout de même, sclérose latérale amyotrophique, etc. Donc, la génétique a des choses à dire, mais seul le gène n'est rien s'il n'est pas évidemment prise en compte dans le cadre d'un environnement beaucoup plus global et même dans le cadre d'un environnement social.
Quelles sont les interdépendances entre les différentes disciplines ? La première, la génétique, mais donc cette interdisciplinarité entre génétique, endocrinologie ou encore neurosciences ?
D'abord, il faut souligner que la première session du colloque ne traitera pas que de génétique, mais de génétique, d'immunologie et de neurosciences. Or, il se trouve que ce sont trois approches de la biologie moderne qui commencent à être en pleine interaction. Et ça, c'est un des apports récents du développement des sciences de la vie. Comme je pense mon collègue Carosella l'exprimera, l'immunologie qui repose sur en particulier le système d'histocompatibilité HLA a beaucoup à voir avec les gènes qui déterminent ces éléments. Les neurosciences, on vient d'en parler un petit peu, il y a toute une neurogénétique qui commence à se dessiner, d'abord au niveau de l'animal expérimental, bien sûr, mais en même temps, comme on ne peut pas tout de même faire des expériences sur l'homme, au niveau de l'observation et des corrélations. Il y a même des techniques qui aujourd'hui permettent de suivre le fonctionnement des gènes au cours de certains états pathologiques, techniques dites de profilage génétique, grâce à des approches qui sont fondées sur les nanotechnologies.
Vous avez cité le professeur Carosella. Alors, professeur Carosella, je me tourne vers vous. Le comportement humain ressemble-t-il à notre système immunitaire, à savoir repousser ce qui nous est néfaste, selon vous ?
Il devrait ressembler. Le système immunologique a comme fonction de préserver l'intégrité biologique de l'individu. C'est une chose très importante, c'est plus ou moins comme le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur réunis ensemble. Donc c'est très important. Et cela à travers un principe, la reconnaissance du soi, de non-soi, à travers des antigènes HLA, comme François Arcot les citait. Néanmoins, ce système immunologique ne rejette pas nécessairement tout ce qui n'est pas de soi. Il y a des exceptions et il sait tirer avantage de ces exceptions. La première, c'est la grossesse, c'est-à-dire afin de continuer, de perdurer dans l'existence, il doit y avoir une descendance dont le système immunologique fait des parts des choses et n'est pas rejeté cet nouveau individu qu'il est en train de sécher. La deuxième, ce sont les bactéries, c'est-à-dire que nous sommes pratiquement constitués à 90% de bactéries, en nombre, comparé aux cellules. Il y a dans notre intestin presque 4000 à 10 000 espèces différentes de bactéries, et tous nos systèmes, à l'exception des systèmes osseux et nerveux, sont en contact avec les bactéries. Non seulement ils les tolèrent, mais en même temps, ils tirent un certain avantage. Ça les serve, tous ces bactéries dans l'intestin, ça sert à améliorer la digestion, par exemple. Et s'ils n'existeraient pas, on aurait un problème. Donc, notre société, peut-être, devrait prendre exemple, dans certaines conditions, des systèmes immunologiques. D'une part, on garde la notion qui préserve l'intégrité de l'individu, mais accepte l'autre, l'intègre, et sait tirer avantage de l'autre.
Alors, je reste tournée vers vous, professeur Carosella. Mais peut-être le professeur François Gros et François Théré pourront également répondre à cette question. Quel rôle l'esprit joue-t-il dans notre équilibre à la fois physique et psychologique ? François Gros.
Là encore, c'est une question assez difficile, mais d'un autre côté, qui relève également du sens commun. Si l'on prend l'exemple des maladies, la manière dont les individus réagissent à une même cause pathologique peut différer énormément selon justement l'état de leur psychisme, l'état moral également. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des relais qui peuvent expliquer cet effet, disons, du psychisme sur la résistance et la vulnérabilité par le biais de toute une série de composés chimiques qui sont des intermédiaires, des neurotransmetteurs, des choses de cette nature, ou des endorphines, ou des choses comme cela. Donc, c'est un des domaines sur lesquels, d'ailleurs, la pharmacologie agit beaucoup. Je n'ai pas besoin de citer les tranquillisants, oui, qui sont donc inspirés de cette action du cerveau sur le corps.
Alors, une question qui s'adresse à tous les trois, François Théré, François Gros et Edgardo Carosella. Question d'ordre plus général. La science peut-elle améliorer les rapports humains ? François Théré, pour commencer, vous n'avez pas encore pris la parole.
Ah, mais je vais essayer de la prendre et de la garder le moins longtemps possible. Bien sûr, la science, surtout dans la troisième étape des découvertes du XXe siècle, les premières découvertes de la science, moi je les situe, vues de la part du juriste, essentiellement à travers les développements spectaculaires de la physique. Alors, la physique sur le comportement humain, et à travers le droit, je vais essayer de le prendre, n'a pas fondamentalement modifié, je dirais, pour le juriste, l'approche des problèmes. Cela s'est situé seulement sur le terrain des responsabilités. Il est évident que les progrès de la science ont complètement bouleversé au premier tiers du XXe siècle l'analyse de la causalité individuelle, de la faute dans la réalisation des dommages. Il était apparu, et encore beaucoup plus après avec des dommages de masse, que la vision de la responsabilité n'était plus la même. Alors ensuite, la deuxième vague a été la vague essentiellement de la chimie. Là encore, examinons le problème du droit. Le droit s'est trouvé confronté à des problèmes notamment de brevetabilité, c'est-à-dire essentiellement du droit de la propriété et du droit des biens. Et là encore, même si ça débordait sur le problème des soins apportés aux personnes dont le psychisme est atteint, plus ou moins justement, et de manière beaucoup plus nuancée que dans les catégories qui résultaient des siècles passés, aussi bouleversait les choses. Mais le grand bouleversement, c'est quand même celui de la génétique et de la biologie, parce que là, il ne s'agit plus des responsabilités, il s'agit même plus du patrimoine, disons même de l'humanité, il s'agit véritablement de la personne. Et à partir du moment où il s'est agi de la personne, c'est tout le droit qui se trouvait confronté à une difficulté particulière, car le droit était axé depuis des millénaires sur la protection de l'individu, sur la personne de l'individu. À partir du moment où maintenant l'espèce devient aussi le patrimoine commun de l'humanité, l'humanité pour un juriste n'existe pas. Ce n'est pas une personne l'humanité, mais elle a un patrimoine, c'est assez curieux, un patrimoine sans personne. Et là encore, il y a des bouleversements de telle sorte que le juriste est très étonné lorsqu'il voit que les lois de bioéthique, comme on dit maintenant, sont l'objet de révisions, sous cette réserve qu'on ne révise pas toujours énormément de choses. Mais l'idée qu'une branche du droit soit l'objet, celle-là en particulier, de révisions tous les 10 ans, tous les 5 ans, tous les 4 ans, surprend le juriste, parce que des lois révisables qui prévoient elles-mêmes le temps de leur révision, alors que parfois on s'aperçoit que dans l'intervalle il n'y aura peut-être pas eu tellement de choses à réviser, c'est en soi quelque chose qui, de toute façon, doit être confronté à cette considération de la personne, du soi et du non-soi, à propos de laquelle notre confrère Carosella a organisé des manifestations interdisciplinaires ou transdisciplinaires, ce que vous voudrez, importantes.
Ça, c'est la voix du juriste, peut-être la voix de l'immunologiste ou du généticien. François Gros sur...
Non, je crois que mon confrère François Théré a eu raison d'abord. J'adhère tout à fait à la description quasi-historique qu'il a donnée de l'évolution du rôle des sciences au niveau de la conscience juridique. Il n'a pas prononcé, curieusement, le mot d'éthique, mais il est évident que la prise de conscience de l'éthique a marqué certainement cette espèce de jonction. Et en fait, c'est relativement récent. Bon, c'est évidemment une prise de conscience qui a également été influencée par une réflexion sur le mauvais rôle que l'exploitation des sciences a pu jouer dans les déviations qu'on a connues au cours du XXe siècle, précisément. Mais si l'on prend les choses d'un côté plus constructif, il est évident que les sciences avancent vite, et de plus en plus vite, grâce aux progrès techniques. Et du coup, il n'est peut-être pas étonnant qu'il y ait des révisions, surtout lorsque cela concerne, par exemple, l'être humain à travers sa biologie, donc également à travers son intellect. C'est la raison pour laquelle il y a pratiquement toutes les demi-décennies ou décennies une réflexion que moi, personnellement, je trouve très saine entre le monde de la biologie et de la médecine et le monde du droit, car c'est quelque chose en soi de nouveau, mais de tout à fait passionnant.
Professeur Carosella.
Pas beaucoup de choses à ajouter après M. François Taré et François Gros. Simplement, je dirais qu'il y a la science et la divulgation de la science. Et cette dernière qu'il a apporté beaucoup à l'individu, car il a permis de comprendre, et comprendre quels sont les défauts et les conséquences de ces défauts, de ces découvertes. Et la plus importante, c'est d'abord d'avoir conscience qu'on peut avoir plusieurs applications pour une même découverte. Mais ce qui me semble la plus intéressante, c'est qu'à partir de là, on considère l'autre non comme quelqu'un de différent. Rappelons-nous que jusqu'au début du siècle, le XXe siècle, les malades mentaux, les fous, ils s'étaient exhibés les dimanches comme un peu des animaux de cirque. Et les cirques, d'ailleurs, ils avaient beaucoup de pathologies qui intégraient dans ces programmes. Et cet regard va changer quand la science commence à se divulguer et quand on commence à comprendre qu'enfin, c'est une maladie, c'est un autre, ce n'est pas une bête de cirque. Et je crois que, du point de vue humaniste, ça, c'est la chose la plus importante, du point de vue scientifique. On considère l'autre non comme différente, mais avec tout son humanisme, parce que ça fait partie de mon humanisme.
François Théré, je me retourne vers vous sur les systèmes politiques. Comment les systèmes politiques influent-ils sur le comportement humain? Je m'adresse à vous, c'est votre parti.
D'abord, je crois qu'il est démontré que le système politique comporte une correspondance évidente avec le système linguistique. Claude Agege a parfaitement démontré que l'évolution de la langue française a été tributaire de l'évolution politique de la France. Pas seulement d'ailleurs le langage, mais le jeu d'échecs est tributaire de la Révolution française. Et on n'a pas tout à fait remarqué que la possibilité pour le pion qui arrive à l'extrême position du damier et qui peut se renouveler en quelque sorte en reprenant un pion en quelque sorte, c'est la victoire de la démocratie. C'est la révolution de 89. Jusqu'à 1789, le jeu d'échecs ne permettait pas au pion d'obtenir une métamorphose et une sorte d'ascension sociale à travers le jeu. Mais il y a bien d'autres considérations qui, du côté de la science, obligent le droit à s'interroger beaucoup plus que par le passé sur le comportement humain. Et je crois qu'il y a une distinction que les philosophes font depuis la nuit des temps, mais que les juristes n'ont jamais fait beaucoup. Il faut bien voir que le droit reste à la surface des choses. Il n'entre pas traditionnellement, même quand on examine les conditions dans lesquelles un contrat se forme, il n'entre pas véritablement dans les tréfonds des fonds et des cœurs. Mais il y a quand même une distinction qui vient de l'influence de la science, la distinction de la volonté et du consentement. Et là, au fond, on a vécu longtemps, en droit, pas en philosophie, sur la confusion des deux choses. Lorsqu'on consent à l'exécution, à la conclusion d'un contrat, mais est-ce que c'est une affaire de volonté? Est-ce que c'est une affaire de consentement? Et là, le juriste, aujourd'hui, est un petit peu confronté à la difficulté. Alors, je reviens, vous me permettez, à notre débat de tout à l'heure. L'éthique, les juristes français, les juristes continentaux, plus exactement, marqués par le catholicisme, sont beaucoup moins attirés par l'éthique que les luthériens et le nord de l'Europe. Et qu'entre les deux, il y a une crise. Le luthérien stigmatise, le catholique fait pénitence. Et c'est pas pareil dans la psychologie que les sciences discernent et permettent de voir. Mais si je suis très réservé sur le mot d'éthique, c'est parce que je crois que nous avions la morale depuis très longtemps et que entre les deux, ma foi, le vrai changement sur l'éthique était la science de la morale. Et ah, elle
François est de... Gros voudrait avoir le droit de réponse.
Et au fond, elle était la science de la morale. Et au fond, l'éthique est devenue la morale de la science. Et c'est en quoi, d'ailleurs, je soulève le débat. Hein, je réponds à une réponse. Nous sommes obligés, beaucoup plus que par le passé, de nous préoccuper de ces phénomènes. Et quand les biologistes nous répondent, nous disent plutôt, je dis biologiste, c'est sans doute une erreur de ma part, il y a très peu de différence entre le grand chimpanzé et l'être humain. Le juriste se demande si, de pax en pax, on n'admettra pas finalement le mariage entre l'homme et le grand chimpanzé. Ça fera peut-être moins de divorces, je n'en sais rien.
François Gros, votre réponse, et puis après nous arriverons rapidement au terme de notre émission.
Non, il est certain que, par exemple, la notion de bioéthique est née d'un constat plutôt pragmatique qui émane du monde plutôt anglo-saxon que du monde latin. Pour autant, je me permets de dire que je ne crois pas que ce soit néanmoins un mauvais concept. Il ne faut pas aller, à mon avis, jusqu'à certaines exagérations, par exemple du principe de précaution, qui parfois ne consiste uniquement ou se ramène uniquement à des entraves du développement scientifique. Et là, nombreux sont les scientifiques qui commencent à être un peu alertés par la chose. Mais pour autant, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que tout de même, les juristes, les grands juristes, les moralisateurs acceptent un dialogue avec ceux qui ont un petit peu la main dans le cambouis, c'est-à-dire les scientifiques, de façon à ce que la société avance justement dans son chemin vers sans doute un consensus. Et là, évidemment, le mot est un petit peu difficile à prendre en compte pour quelqu'un qui voit la morale à la manière d'Emmanuel Kant, qui est une chose évidemment presque prédéterminée. Je ne suis pas du tout hostile, d'ailleurs. Moi, j'ai une formation de philosophe. Mais je crois tout de même que ça manifeste un progrès à condition de ne pas être exagéré comme toute chose.
Venons-en au terme de notre émission, puisque le temps passe vite, très vite. Je me tourne vers vous, professeur Carosella. Nous parlons beaucoup d'identité, notamment d'identité nationale. Vous êtes beaucoup intéressé à la question de l'identité, pas forcément nationale, mais à la question d'identité, au soi et au non-soi. Est-ce que les comportements humains, le système politique expliquent cette quête d'identité, selon vous ?
Je m'intéressais beaucoup à l'identité de l'individu, pas à l'identité nationale. D'abord, je vais vous rassurer, du point de vue biologique, il est clair qu'il n'y a pas marqueur génétique d'identité française, donc pas plus qu'espagnole, italienne, américaine. Donc l'ADN nous a rendu des énormes services, mais certainement pour cela, il ne pouvait pas nous rendre service. On pourra
il y a
pas...
un French paradoxe. Tout
exactement. Donc il ne pouvait pas nous dire, heureusement, il n'y a pas marqueur d'identité. L'identité ne doit pas plus être comprise comme une idéologie, hein, mais doit être située au fondement de l'altérité et du respect d'autrui. Le problème de ces débats, c'est que, je pense, on a confondu appartenance et identité. Une identité se définit à niveau national, se définit par son histoire, ses origines et ses cultures. Et comme l'identité d'un individu est évolutive, c'est-à-dire il ne peut pas être considéré à un moment donné, si on considère l'identité française, il ne peut pas avoir une identité française avant 1789 et après 1789. C'est une identité évolutive. La France était monarchiste, elle est républicaine, elle était catholique, elle est devenue laïque. Je pense que nombreux pays se posent la question sur l'identité nationale. La France, elle a le courage de les traiter, mais il doit continuer à les traiter. Il ne doit pas être un point, et voilà, c'est terminé un essai qui donnait ce qui se donnait. Il doit, peu importe les administrations suivantes, continuer à les traiter. Et il faut savoir que tous les grands débats naissent aussi dans les conflits. Aux années 70, l'écologie, rappelez-vous, on disait on commence vert pour devenir rouge. Ben, aujourd'hui, on a tous les messieurs écologistes, et on est presque tous vertes, et personne n'est devenu rouge, enfin, pas plus qu'avant en tout cas. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas les prendre comme une idéologie. Et que c'est quelque chose d'évolutif.
Merci professeur Carosella, nous avons débordé un tout petit peu du colloque, mais comme vous allez aborder la question de l'individu, du soi et une union soi, ça entre un petit peu dans ce domaine. Je rappelle le titre de ce colloque dont la première partie débute le 7 juin 2010, un regard sur l'homme contemporain à travers la science, la morale et la politique. La première partie porte sur la science et les deux autres porteront sur la morale et la politique et auront lieu à l'automne 2010. Bérénice Tournafond, ce colloque est ouvert au public, bien naturellement, comment s'inscrire ?
Alors pour s'inscrire, c'est très simple, soit vous vous rendez sur notre site www.hommecontemporain.org au singulier, tout attaché, et dans ce cas vous aurez le programme, le bulletin d'inscription.
Et c'est également sur ce site que l'on trouvera les prochaines dates qui ne sont pas encore définies pour l'automne 2010.
Oui, tout à fait, vous trouverez les prochaines dates, le lien vers des émissions de Canal Academy.
Eh bien merci, merci à tous. Et comme vous le précisiez, Bérénice Tournafond, Canal Academy, est partenaire de cet événement. Donc Canal Academy retransmettra une bonne partie de ces conférences qui auront lieu le 7 juin et puis également courant automne 2010. Merci à tous et puis je l'espère à bientôt pour de prochaines rencontres. Au revoir. We'll be right back.